lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
Once I never could have hoped to win, you're stopping down the road and leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces.
I'm still standing, c'est pas un hasard cette chanson-là, pour marquer le lancement officiel donc de espacedaunay.ca et surtout Radio Éternité qui est là pour quelques années à venir. On sait quand ça commence, mais on est incapable de dire quand est-ce que ça va terminer. C'est le premier véritable talk show de Sylvain et de moi ensemble pour le faire, parce qu'il y a un an bien exactement, Sylvain était dans le studio de TVA quand j'ai fait le dernier bulletin de nouvelles. C'était donc la fin de la saison 2024. Et puis à ce moment-là, Sylvain était là pour prendre des images. Bonjour Sylvain.
Salut Pierre, Caroline, je suis content d'être là.
Je dirais, oui, on était fait pour faire ce genre d'émission-là un an plus tard, mais je pense que si on retourne un an en arrière, c'était un moment rempli d'émotions, ce qui se passait cette soirée-là, parce que oui, c'était mon dernier bulletin avec TVA. Puis, tu m'as interviewé d'ailleurs juste avant le bulletin, en me demandant... Puis là, j'avais comment toutes sortes d'idées.
Comment qu'on se sent, ouais.
C'était un tourbillon dans ma tête. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas claires, d'ailleurs, à ce moment-là. Alors, j'ai fait le bulletin, puis évidemment, il y a eu un bel hommage qui a été rendu. C'était vraiment extraordinaire ce qui a été fait à ce moment-là.
Là, qui contrairement avant, quand on avait fait un hommage pour tes 50 ans de carrière, oui. On avait pre-tape dans l'après-midi pour être certain que tout se déroule bien, alors que là, au dernier bulletin, il n'y avait rien de préparé, là. C'était vraiment, on a lancé ça en direct sans trop filet de sûreté. Tu te rappelles, on avait tes commentaires visuels en live, tu pleurais, là. Tu étais ému de ça, là, de voir tous ces gens-là qui s'adressaient à toi là, de cette façon-là.
Mais je m'y attendais pas. C'est-à-dire que quand ça s'est arrivé, je me disais, ils vont me laisser le mot de la fin pour que je fasse mon petit boniment de sortie. Ouais. Et puis, j'avais pas imaginé. Surtout après avoir vécu le 50e anniversaire, où est-ce que j'avais donc quelque chose d'extraordinaire? Bougez pas une petite seconde, j'ai un petit un petit bruit qui un petit,
ah oui, ok, tu l'entendais.
J'entendais un petit bruit dans mes oreilles. Et donc, quand on a lancé notre projet, puis qu'on s'est mis à se parler d'un projet de radio,
ouais.
Ce que toi, tu ne sais peut-être pas, c'est que l'aspect projet de Radio Éternité, c'était quelque chose que j'avais en tête probablement 10, 15 ans passés. Puis même dans mes années où j'étais à CEPAC, j'avais déjà le goût de partir à un poste de radio sur le principe de radio numérique, mais ça commençait à peine, puis je savais pas comment m'y prendre. Alors j'ai toujours reporté ce projet-là. Puis là, tout à coup, t'arrives, toi, avec ta vision d'espacedaunay.ca que j'avais même pas imaginé. Pourquoi t'es arrivé avec ça, toi?
Mais toi, tu te concentrais beaucoup sur un canal de radio numérique.
Oui.
Alors que... par rapport à ton talent que t'as, tu peux faire plus que de la radio. Moi, je te voyais déjà faire de la vidéo, faire du texte, faire de la photo, revenir avec des archives. Alors que juste se concentrer sur l'audio comme la radio, je t'aurais senti limité. Alors que l'espace donné pouvait ouvrir ça, le canal de radio numérique. Puis ça n'empêcherait pas de faire du vidéo. Ça n'empêche pas non plus de faire des textes, de la vidéo, de la photo. Fait que tout ça mis ensemble, tant qu'à faire juste une radio, je me suis dit pourquoi pas créer l'espace donné, alors que tout ça va se retrouver sur cet espace-là, puis les gens qui veulent écouter de la radio vont pouvoir l'écouter. Les gens qui veulent te revoir dans tes archives pourront le refaire. Voir des exclusivités, tes vidéos, d'autres choses. On peut tout te découvrir dans cet espace-là, alors que juste se concentrer sur la radio, je pense que je t'aurais senti limité là-dedans.
Ben, c'est sûr que la radio, comme telle, c'est mon médium préféré.
Oui, je sais. Ben, c'est ça, t'as débuté comme ça.
J'ai
toi.
Commencé comme ça à la radio, dans un studio où effectivement j'étais seul dans ma petite cabine, ouais. Puis j'étais bien dans cet univers-là. C'est-à-dire que je communiquais avec l'auditoire et puis j'avais un plaisir fou à faire ces enchaînements de musique, parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, tu choisis ta musique. Contrairement à ce qui est arrivé dans la suite de ma carrière, où à un moment donné, l'animateur ne choisit plus rien. Et ça, je dois admettre que c'est extrêmement difficile de te faire imposer un choix.
Ben oui.
Donc, dans ma tête, je m'étais toujours dit, aussi bien diriger une station de radio. C'est comme ça que j'aurais, avec mon ami Jean-Guy Trudel, acheté la station de radio de Sorel, où est-ce qu'on avait des investissements dans la radio, puis on se disait, on va se faire une radio pour nous autres. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Parce que quand t'arrives là, tu deviens un administrateur. T'es plus le gars de radio. Oui, t'en fais un petit peu, mais t'es pas là surtout pour faire marcher.
T'es plus l'artisan en tant que tel.
Non, t'es là pour faire fonctionner une station c'est de radio, trouver l'argent, parce que là, fallait vendre de la publicité. C'était énorme ce qu'on avait à faire, et j'ai trouvé ça extrêmement difficile, laborieux même, ouais. Parce que c'était plus ce que je voulais faire. Quand nos discussions parties, j'ai dit, je veux quelque chose qui soit facile à faire. Puis là, t'es arrivé avec ta banque musicale qui était exceptionnelle, qui nous rappelait les bonnes années de Rock Détente. Puis là, je me suis dit, ben, quelle belle occasion de relancer le commentaire de 8h20 et de tenter des expériences. Donc, depuis à peu près 4-5 semaines, on tente des expériences sur Radio Éternité. On essaie des choses. Il y en a qui vont marcher. Il y en a qui marcheront pas. C'est pas plus grave que ça.
Comme là, juste avant d'entrer en onde, on a failli pas être là parce que j'avais un retour de son qui retransmettait un retour de son, qui retransmettait un retour de son, puis je comprenais pas pourquoi.
Donc, le I'm still standing, il y avait de la misère à se mettre les deux pieds debout.
Exact.
Le I'm still standing, on avait le gros orteil pogné dans la porte.
Oh oui.
Puis ça marchait pas. Mais j'ai pas paniqué. Je ne panique plus maintenant.
Moi non plus.
Devant ce genre de choses. Puis là, tu t'es dit, toi, je vais trouver la solution.
J'ai tout éliminé les problèmes qui pouvaient être un. Puis là, j'ai vu que c'était par rapport à ma source audio ici. Là, fait que on est rentré quelques minutes en retard, mais on est tous là. Puis on est bien contents de lancer officiellement cette radio-là.
Une radio qui va regrouper des baladonnais.
Oui. C'est quoi ça?
Bon, je vais vous dire d'où ça part, cette idée-là. Parce que quand je quitte TVA, on doit lancer à l'époque un balado grâce à la page d'ouverture de TVA sur son site Internet.
Ouais.
Et dans la salle des nouvelles, Stéphanie Salomon, elle a dit « Pourquoi tu pars pas la gang des baladonnais? Que le monde qui va écouter les balados, ce seront des baladonnais. » Et ça a parti comme ça, cette idée-là. Puis tout récemment, quand j'ai regardé l'ampleur du nombre de personnes qu'on rejoignait, là, je me suis dit « Hey, il faut qu'on relance ça, la gang des baladonnais qui vont, dans le fond, se joindre à une équipe. Puis ça peut mener toutes sortes de possibilités, parce que nous, il n'y a pas de limite. Hein. On va tenter des affaires. Il y en a qui marcheront, il y en a qui marcheront pas. C'est pas plus grave que ça. Mais, exemple, on pourrait toute la gang, les baladonnais, partir dans le sud, dans tel resort. Et j'annonce que de telle date à telle date, voici un site. Ceux qui veulent venir avec nous, vous êtes bienvenus. Puis on va aller faire de la radio, que ce soit au Mexique, que ce soit en République dominicaine. Je choisis déjà des pays où je me sens un peu plus sûr. J'allais dire Cuba, mais là, je suis prudent parce que...
Et ça, qu'on pourrait pas en faire parce que ça se peut qu'il n'y ait pas d'électricité, là.
C'est ça. Alors, là-bas, je suis pas certain. Puis la bouffe, j'ai pas encore trouvé un resort qui répond à mes attentes là-dessus.
Besoin, oui.
C'est ça. Moi, pendant que je parle des baladonnais, il y a quelque chose que toi, t'as parti, Sylvain. Ouais. De ton côté, il y a, je ne sais pas combien d'années, les capsules 63 secondes.
2018.
Tant que ça? 2018,
ouais. Ça va faire 8 ans, je pense.
2018.
7, 8 ans.
Wow.
Ouais. Capsule de n'importe quoi, je te dirais. C'est un ramassis d'aventures quotidiennes, de péripéties, de découvertes qui traînent autour de mon quotidien. Ben du monde me disait, Sylvain, qu'est-ce que tu fais dans... Tu sais, on te connaît dans ton métier, mais autour de ton métier, il t'arrive toutes sortes de patentes, puis tu devrais documenter ça, on est curieux de voir ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas, je ferais ça. Ouais, oui. Je voulais pas faire ça trop long. Je voulais faire ça assez court, parce qu'Internet, maintenant, on est tous sur le très rapide. Au bout de 10 secondes, si on n'est pas accroché à une vidéo, c'est pas long qu'on skip. Donc, il fallait que je trouve le moyen d'aller chercher l'auditoire rapidement. Donc, 63 secondes est né de ça. Pourquoi 63 secondes? Oui. Pourquoi pas 60? Parce que en télé, là, tu le sais autant que moi, Pierre, puis même à la radio, c'est des 30, c'est des 15, c'est des 60 secondes. On ne peut pas dépasser ça. Alors que là, 63, on est complètement ailleurs. Je suis hors des sentiers, je suis complètement à ma façon, de faire qui est... un peu un pied de nez, en fait, aux radios pour télé conventionnelles qui, tout est régi, on peut pas dépasser. Fait qu'en 63 secondes, si je suis capable de livrer un petit quelque chose de facilement le fun, les gens pouvaient embarquer. Fait que ça a pas pris tant de temps que ça. Les gens ont rapidement embarqué dans cet univers-là, puis de fil en aiguille, on est arrivé avec des vlogs qui duraient un peu plus que 63 secondes, là, surtout l'été dernier, là. Là, les gens ont plus embarqué dans ces petits vlogs-là parce qu'ils savaient à quoi s'attendre. Fait que des fois, je pouvais aller faire un 2, 3 minutes, 4 minutes. Mais dans la première minute, il fallait que j'aille chercher l'attention de l'auditoire. C'était mon défi aussi de raconter une histoire en 63 secondes. Parfois, c'est pas toujours évident d'aller à l'essentiel de cette capsule-là dans l'histoire, là, tu sais.
Mais tu tripes quand tu fais ça. J'adore. Je t'écoute. Je te regarde aller. Et j'ai comme l'impression que pour toi, c'est ça ton train électrique, toi.
Oui, moi, c'est ça mon train électrique. Puis je me suis fait une petite notoriété avec ça. Je pensais pas, mais il y a des artistes qui me suivent avec ça depuis mes 63 secondes, là. Des artistes de haut calibre, là. Des gens connus au Québec qui aiment écouter ce que je fais parce que, justement, c'est différent.
Est-ce que ça explique pourquoi t'as lancé une primeur sur Offenbach?
Offenbach est arrivé avant ça même, je te dirais. Mais oui, ça allait aider, c'est certain, avec cette notoriété-là. Moi, je suis collé aux musiciens originaux depuis bien des années. Moi, Offenbach, ça fait partie de mon univers, un peu comme toi avec Elton John, mettons. Je connais tout de ce groupe-là, tout des chanteurs. Puis, j'ai l'âge où j'aurais pas pu rencontrer Jerry Boulet, parce que quand il est décédé, j'avais 2 ans.
Oh!
Fait que ça te ramène en 90, juillet 90, lors du décès de Jerry. Il était tout jeune, il avait 44 ans à l'époque. Puis moi, j'avais 2 ans. Mais je me rappelle au moment où, quand il est décédé, où j'étais.
Ah oui?
Je me souviens de ça parce que mon père écoutait ça. Parce que ma mère écoutait ça. Puis quand c'est arrivé, on était à Laval, on était dans le camion à mon père, puis on revenait vers la maison ici. Puis là, tout d'un coup, sur les bandes FM, c'est quoi, c'est KMF dans ce temps-là, annonce le décès tragique de Jerry Boulet, du cancer. Puis toutes les chansons de l'album Rendez-vous doux jouaient à la radio, toutes les ritournelles possibles jouaient à la radio. L'album Rendez-vous doux, d'ailleurs, là, le dernier album de Jerry Boulet, son vivant, toutes les pièces de cet album-là ont joué à la radio, et même encore aujourd'hui, jouent encore à la radio. Il n'y a pas une journée où j'embarque pas dans la voiture et il n'y a pas une chanson de Jerry ou de Offenbach qui joue à la radio. C'est quelque chose. On a oui. perdu des grands artistes comme Félix Leclerc, qui malheureusement joue plus à la radio, Claude Léveillé, c'est de valeur, il y a des bonnes chansons.
Mais c'est un peu ce qu'on veut faire revivre, ouais. dans le fond, avec Radio Éternité.
Oui.
C'est-à-dire de faire entendre des voix, des gens qui ont marqué notre jeunesse. Parce que moi, je remonte évidemment aux années 70, puis je remarque dans la sélection musicale que tu as apportée, justement, dans le format que j'appelle le format rock des temps,
ben oui.
Ça ramène des artistes, des René Claude, des Isabelle Pierre, des gens qui ont marqué notre univers musical et qui nous rappellent plein de choses, parce que t'entends une chanson comme celle-là, tu te dis « Oh, j'étais où dans
ouais.
ce temps-là?
Ouais. »
Puis ça te fait travailler tous tes souvenirs. D'ailleurs, souvent dans les commentaires, quand je les écris pour le matin, ben, ça me ramène souvent dans le passé, parce que j'ai ce vécu d'avoir traversé les années 70, 80, 90 et compagnie, en vivant de très grosses actualités,
ouais.
de très gros drames sociaux. Et je peux partager souvent avec des gens des choses que peu de gens ont connues. Puis moi, souvent, je les ai connues de l'intérieur. Moi, j'ai connu la naissance du Parti québécois de l'intérieur des assemblées des assemblées de cuisine du PQ quand ils ont commencé. Puis je me rappelle, ils votaient des fois des résolutions. Puis je me rappelle qu'il y a quelque chose qui s'est passé un jour, puis René Lévesque de dire « Hey, on vient de tuer le parti avec ça! » Évidemment, ça s'est arrangé, là. Mais le soir que ça s'est passé, là, pour lui, là, on vient de tuer le Parti québécois. T'sais, j'ai vécu ces moments de haute tension, et j'ai vécu la crise d'octobre. Je commençais à peine mes premières armes à la radio. C'est-à-dire que j'étais pas encore en onde. J'allais à la station de radio m'entraîner, puis c'était sur des textes qui traitaient de la crise d'octobre, avec donc les enlèvements de Pierre Laporte, de James Earl Cross, si je me rappelle.
T'as une bonne mémoire.
Monsieur Cross, qui a été un conseiller, en fait, il était au consulat britannique, et puis lui avait été enlevé. Ça avait été le premier qui avait été enlevé, Monsieur Cross. Et éventuellement, ça a été Pierre Laporte. Puis là, on se posera toujours comme question, pourquoi lui, en particulier? Il y a beaucoup de questions sans réponse dans cette affaire-là de la crise d'octobre. Qui l'a provoqué? Puis pourquoi Pierre Laporte? Puis pourquoi qui lui est mort?
Mm-hmm.
On n'a pas ces réponses, parce que malheureusement, c'est resté entre deux. Cela étant dit, Sylvain, c'est qui ça, Sylvain Côté?
Oh boy! Par où qu'on commence?
Ben oui, par où qu'on commence quand on dit qu'on sera ensemble dans ce projet-là. Sylvain vient d'où?
Moi, je pense que c'est un passionné, Sylvain Côté. C'est un peu... je te dirais, quand on s'est mis à parler ensemble lors de notre premier tournage à TVA, il y a de ça 7 ans, 8 ans.
Oui.
On se connaissait pas, ni un ni l'autre. Moi, je savais que t'étais qui parce que je t'avais entendu à la radio l'été. Puis j'ai découvert au fur et à mesure qu'on était tous les deux des passionnés des médias. Moi, étant enfant, j'ai eu une caméra dans mon visage assez rapidement. À ma naissance, moi, ma naissance est filmée. Mes baptêmes sont filmés. Mes moments de vie importants sont filmés. Ça a toujours été documenté, tout ça. Fait que c'est facilement repérable. De trouver un moment clé dans ma vie, puis te dire ça, c'est un beau moment, puis je peux te l'avoir en visuel. Puis à un moment donné, il y avait une annonce à la télé communautaire qui cherchait des bénévoles. Hey, j'avais 11 ans. J'appelle, moi, je veux faire du bénévolat, je veux faire de la télé. J'ai toujours voulu faire ça. J'écoutais des making-of, hein, on voyait les caméras, le staff, l'éclairage, puis je voyais, donc ça avait l'air d'être le fun de voir ce que à la télé, on ne voit pas. Parce que la télé, tout est concentré sur le décor, tout le visuel, mais l'arrière-scène, jamais on le voit, c'est très rare, là. En tout cas, à cette époque-là, aujourd'hui, tout est documenté, tout est facilement accessible pour voir justement ces productions-là. Mais à cette époque-là, il n'y en avait pas. Puis, moi, je voulais faire ça, la caméra. Puis, il y a ATQS, on va se ramener dans les années 96-97, à l'RJMP avec Jean-Marc Parent. Ce gars-là, il arrive, puis là, c'est, il présente son gars de son. On voit le gars de son. Hey, jamais on voyait ça à télé, un gars de son. Même affaire, les caméras, il présentait, il parlait avec les caméramans. Puis là, on voyait les caméras, puis je voyais tout l'envers du décor. J'aimais ça, puis je trouvais ça tellement trippant. Puis encore plus que ça, ce gars-là, il défonçait. Ça en est un, ça, qui il est allé défoncer. Ça finissait jamais à 9h, l'émission. Souvent, à 9h10, 9h15, 9h30. Puis c'est ça qui m'a donné le goût de m'accentuer là-dessus, faire ce qui me tente dans ce métier-là. Puis à la télé communautaire, je me souviens, j'avais 11 ans, je voulais donc être bénévole, puis je suis allé cogner souvent à la porte, puis j'appelais à toi fin de semaine. Je peux-tu aller donner mon nom? À un moment donné, ils m'ont dit, ben oui, viens donner ton nom, on l'aura en banque. Je vais donner mon nom, j'étais content, tu sais, je rencontre la gang, les coordonnateurs dans ce temps-là. Donne mon nom, remplis mes informations personnelles. Moi, je m'attends de me faire appeler demain matin, là. Parce que sur le canal, c'est marqué, on a besoin de bénévoles. Si t'as besoin de bénévoles, c'est parce que je m'attends à ce que tu m'appelles. On m'appelle pas. Mais non. J'ai un petit cul d'11 ans. Qu'est-ce qu'il va venir faire ici, tu sais? Je rappelle la semaine d'après. Hey! Je suis allé donner mon nom. Vous avez besoin de bénévoles? Oui. Ben, je suis là, je suis disponible. J'ai appelé de même pendant un mois et demi. Puis à un moment donné, je m'étais rendu sur place. Ça suffit d'appeler, je vais me rendre sur place. Puis là, je me rends sur place à ce moment-là, puis il y avait la stagiaire qui faisait de la mise en onde un dimanche après-midi. Puis tout ce qu'elle met en onde, il n'y a pas de son. Puis moi, je m'en viens cogner à la porte. Puis là, je viens donner mon nom encore une fois. Puis la stagiaire, elle se demande pourquoi j'ai pas de son. Là, puis entre-temps, le boss de la station appelle. « Ouais, là, il n'y a pas de son. Tu peux-tu arranger ça? Je reçois une couple d'appels. » Puis dans ce temps-là, on était très, très écoutés par Vidéotron. Puis là, c'est pas quoi faire, la pauvre jeune. Puis moi, je pense, je le sais, c'est quoi, mais j'ose pas. Puis là, à un moment donné, je le vois qu'il y a une pression sur elle, puis je m'en vais juste à côté des VTR, puis j'enfonce 2-3 boutons, puis paf, le son, il tombe en onde. Puis là, lui, il est au bout du fil avec elle. « Ah, hey, merci, là, c'est réglé le problème de son. » Elle dit « J'ai rien fait, c'est le jeune qui est venu donner son nom, qui a arrangé ça, tu sais. » C'est qui? C'est quoi son nom? » Elle me demande, c'est quoi ton nom? C'est Sylvain Côté. Le fatigant qui appelait un mois et demi, deux mois après. Le vendredi d'après, je me faisais appeler puis je commençais ces caméras sur les événements dans la chute.
Quelle belle histoire.
C'est commencé de même. Le gars qui vient réparer un petit problème technique qui pour moi, c'était facile de l'arranger parce que visuellement, je le voyais. Que pour la stagiaire, elle qui commençait puis qui avait aucune espèce d'idée, c'était quoi.
Mais t'avais étudié là-dedans? Tu connaissais ça un peu? Ou?
Ben moi, je me faisais des petits studios de même, comme chez vous, là, puis comme chez nous, homemade, avec deux VTR, un petit micro, un radio. Je me faisais des mix. Je savais que je pouvais panner à gauche, un bord ma voix, l'autre bord ma musique, puis retravailler tout ça par après. Fait que pour moi, 11 ans, là, 12 ans, c'était facile de venir arranger ça parce que je bisounais déjà comme ça chez nous, tu sais.
C'est fantastique, ça.
Puis là, ben, là, après ça, on connaît la carrière que j'ai eue, là, tu sais. Je suis devenu employé à 16 ans. J'ai suivi quelques formations ici et là, mais tu sais, moi, je suis pas allé à l'école en tant que tel, au cégep, pour étudier là-dedans. J'ai étudié ça sur le tas, chez nous, dans des stations de télé. Je suis devenu autodidacte, polyvalent. Ici, maintenant, à Gatineau, on m'appelle le couteau suisse de la boîte parce que je peux faire de tout rapidement. Tu sais, je suis capable de faire la job de 3 personnes en une là, pour en même temps. Comme.
Hey, ça, c'est fantastique. Pour un employeur,
ben oui.
C'est l'employé que tu veux avoir.
Ben oui.
Puis ça, cette expérience-là, ben, c'est inné, là. C'est...
Oui, c'est pas quelque chose que tu vas aller apprendre à l'école, ça. C'est quelque chose que tu apprends au fil du temps, dans la vie. Moi, je l'ai acquis comme ça. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Puis quand je suis arrivé à Gatineau, là, plusieurs des gens qui étaient là se demandaient au début qui va venir faire quoi, lui, le petit gars de la chute. Premièrement, un gars de la chute va venir travailler à Gatineau un heure et quart, un heure et demie de route. Il risque de se décourager. Hein. Ça a été la mentalité du début. Parce qu'il y a eu un balayage qui s'était fait. Il y avait eu une restructuration d'entreprise, comme dans toutes les entreprises qui peuvent faire de la restructuration. Fait qu'il y a eu beaucoup de postes qui ont été abolis dans ce temps-là. J'ai été le premier depuis longtemps à venir à être embauché. Et là, ça va faire 10 ans, là, au mois d'avril, que je viens régulièrement à Gatineau une fois par mois minimum. Fait que je pense que cette expérience-là... me suit et va toujours me suivre. Là, fait que quand on est arrivé avec Espace Donné, tu m'as dit je veux faire une radio Internet. Et moi, tout de suite, dans ma tête, je savais exactement ce que ça prenait puis quoi mettre en place. Puis ça n'a pas pris 2 mois. Puis on est déjà là en direct à soir. Il est 19h04, on est le 20 décembre. T'imagines? Je t'aurais peut-être même pas rencontré, parce que j'aurais sûrement jamais été porter mon CV à TVA ou il ne m'aurait jamais embauché à ce moment-là. Là.
Ben, ce métier-là, c'est un peu qui tu connais à travers ton évolution. Ce que je veux dire par là, c'est parce qu'on a travaillé ensemble que tout à coup, on a vécu des choses extraordinaires. Oui, la première fin de semaine au Festival de Montgolfière, Sylvain a fait un travail colossal, puis on travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Il pleut comme ça se peut pas, puis on s'en va rencontrer des bénévoles. On a fait une capsule qui, à mon avis, était la meilleure capsule pour présenter les bénévoles qui nous racontaient, dans le fond, les traits, pourquoi ils étaient des bénévoles. Puis on avait fait un très, très beau travail. Toi, au niveau du tournage, c'était fantastique. Et quand je me dis, j'ai rencontré quelqu'un 8 ans plus tard qui me dit...
Ben oui, récemment en plus.
Oui, puis cette personne-là va me dire, j'étais avec mon chum sous la tente, vous nous avez enregistré à tel moment... Puis là, je regarde la fille, puis je dis, oh my God, c'est vrai, c'est elle. Elle avait des cheveux remarquables dans le temps. Elle les a encore aujourd'hui. Mais c'est parce que, dans le temps, ça m'avait frappé. C'était vraiment, dans l'imaginaire, là, c'était comme de très, très, très beaux cheveux. Puis je sais pas pourquoi, quand j'ai fait cette entrevue-là sur le fly, je me dis, oh mon Dieu, donc bien jolie. Mais c'était resté comme ça.
Ben oui.
8 ans plus tard, je la retrouve dans un autre contexte tout à fait différent. Dans un domaine légal par la suite. Puis là, tout à coup, tu dis, oh mon Dieu, que le monde est petit.
Oui.
Mais ce qui fait qu'on a travaillé ensemble aussi, c'est que il y a eu évidemment quelque chose de terrible qui s'est passé à Gatineau quelques mois plus tard.
Oui, oui.
Et c'était les inondations.
La deuxième
fois que les inondations frappaient Gatineau. Et à ce moment-là, précisément, je suis donc le dernier employé dans la liste des employés. Alors, qui est-ce qu'on appelle pour entrer les fins de semaine? C'est le dernier en bas. Parce que il y avait personne qui... D'abord, le patron demandait, qui veut travailler en fin de semaine? Il y avait personne qui appliquait pour faire la job la fin de semaine. Alors là, il m'arrivait à la fin puis il me disait, Pierre, faudrait que tu rentres. Puis j'y allais. Puis je suis content d'avoir vécu ça parce que ce qu'on a vécu ensemble... on allait rencontrer des gens qui vivaient des moments épouvantables.
Ah, c'est atroce, ça, ces moments-là, parce qu'on le vivait pratiquement avec eux. On pouvait s'imaginer dans les conditions auxquelles ces gens-là vivaient sur le moment présent. Puis le désespoir, là, on le ressentait, là, c'était pas facile. Là. Les sacs de sable, là, les sinistrés, les gens, quand on allait à la Croix-Rouge, là, justement, là, on en rencontrait des gens là, qui avaient pratiquement tout perdu leur maison. Là.
C'est des moments qu'on n'oubliera jamais. Puis moi, dans mon cas, je venais de vivre quelques mois plus tôt, personnellement, la tornade.
Oui.
Alors, la tornade qui avait été frappée dans le Mont-Bleu, ben, était rentrée d'abord par la zone vraiment du Pontiac, et ça nous avait frappé, nous autres, dans la région. Ensuite, ça s'est rendu jusque même à travers... Il y a le courant là, qui allait vers le Mont-Bleu. Il y a eu du dommage épouvantable.
Ah oui, ah oui.
Alors, quand tu as vécu ça une fois, puis là, tu vois quelqu'un qui vit le traumatisme des inondations... Tu ne traites pas la nouvelle de la même façon. Mais ce qui est remarquable, s'il y avait un événement particulier que je retiens avec Sylvain, on est en course folle pour faire un reportage On s'en va vers quelle direction? On s'en va dans le
Pontiac? Au début, on se fait appeler. Il y a toutes sortes d'informations qui rentrent au fur et à mesure. Le réseau de TVA LCN nous fait de l'information. Je pense qu'il y a même les autorités locales à ce moment-là qui nous donnent l'information. Fait que là, nous, on est un peu sur le qui-vive. On va-tu dans le Pontiac ou on va dans le coin de Chelsea? On va aller dans le coin de Chelsea. Ça a l'air qu'en ce moment, ils vivent des problèmes là, à ce moment-là.
Mais on est en route quand même pour le Pontiac au moment où LCN, je me rappelle. LCN nous appelle, puis ils disent, là, ça nous ferait un reportage dans style 7 minutes.
Ouais, c'est ça, quelque chose du genre. Fallait. Pour nous, on est sur l'autoroute 5 à ce moment-là.
Puis là, on dit,
d'abord.
Ça nous prend quoi? Ça nous prend un champ, ça nous prend de l'eau, et on trouve donc, évidemment, un endroit où c'est inondé, avec des buttes de sable, puis là, on s'installe pour faire le reportage. Moi, dans ma tête, je pense que je suis rendu dans le Pontiac.
Oui.
Alors, quand LCN me présente, je dis que je suis dans le Pontiac, mais moi, je réalise pas qu'on est à Chelsea.
C'est Mathieu Bellumeur qui te présente, d'ailleurs, qui est un ancien collègue de Gatineau, qui à ce moment-là à LCN, chef d'antenne, et il te présente, Pierre Donnet, vous êtes dans le Pontiac, t'es pas pour aller le...
Mais je ne sais même pas, moi.
Là,
le pire, c'est que je ne sais pas, Sylvain. Moi, je pense qu'on est rendu dans le Pontiac parce qu'on changeait de place tellement vite.
Oui.
Moi, je ne sais plus où je suis rendu. Puis quand j'ai fini, je dis, ici Pierre Donnet, dans le Pontiac. Ça finit de même. Puis là, tu me regardes, tu dis, une fois que le micro est fermé,
oui,
puis que la caméra on n'est plus en onde, tu dis, bien, on n'était pas dans le Pontiac.
Pas en tout.
On est à Chelsea. Hey, celle-là, ouais, je l'avais.
Mais en même temps, une chance que tu l'as joué comme ça, t'es pas pour aller dire le contraire de ce que le chef d'antenne te dit.
Ah oui, le chef d'antenne me présente là.
T'es dans le Pontiac? Non, je suis pas dans le Pontiac. Ben non, t'es pas pour t'obstiner de même en onde.
Exact. De toute façon, ça arrivait tellement vite. Écoutez, on était en onde à peu près à toutes les heures des fois à toutes les demi-heures. Et on trouvait un nouvel invité à chaque fois.
Oui.
Comment on a fait ça? Ça tient du miracle. Arrivé à Gatineau, là, sur Urtibise, là. Urtibise, on a fait des spectaculaires, là. Puis tout ce qu'il y avait dans l'environnement, là, d'aller voir les gens qui avaient barricadé leur maison. On les faisait quasiment en porte à porte.
Toi puis moi, sur l'autoroute 50, quand ils gonflent les gros ballons pour empêcher l'eau de traverser l'autoroute, là, près du pont des Travards.
T'étais avec moi quand les gars du ministère se demandaient ce qu'on faisait là.
Oui.
Hey, on était sur l'autoroute 50, c'était dangereux.
Oui, puis il y avait une grosse flaque d'eau, on aurait pu se faire arroser, on aurait pu être dans un... Mais on était quand même prudents, il faut le dire. On n'était pas téméraires par rapport à ça. Là.
Mais quand même, les gens du ministère nous regardaient puis se demandaient « qu'est-ce qu'ils font là, ces gars-là? » Mais on voulait montrer qu'est-ce qui se passait. La seule façon, c'était d'être dans le feu de l'action.
Ils nous ont laissé faire. Hein. Ils ont dit « parfait, soyez prudents. » Puis ils ont mis le gyrophare, ils nous ont sécurisé l'endroit. Mais c'était impressionnant de voir les gros ballons jaunes se gonfler.
Ah, écoute, c'est des ils choses...
Diguent.
Ça restera toujours marqué dans notre imaginaire. Puis ceux qui ont vécu ça ne l'oublieront jamais. Ceux qui ont vécu la COVID.
Ah oui.
Tu sais, on sera dans 20 ans d'ici, on parlera encore de la COVID, comment ça a été dur. Mais c'est des moments extraordinaires.
Ça va faire 5 ans, là, Pierre, dans ma tête.
Oui.
C'est comme l'année passée ou l'autre année d'avant.
Exactement. Oui.
On a fait pause, puis on dirait qu'on n'a pas refait pli comme complètement.
Non.
Encore. C'est très récent. Puis pourtant, rappelle-toi, les inondations, ça fait 6 ans.
Oui.
Puis c'est plus loin, on dirait, dans ma tête, alors que c'est presque à la même période.
Ah, ça, écoutez, quand on pense à mes débuts, t'as une tornade, t'as des inondations, puis t'as la COVID.
T'as trois événements majeurs.
T'sais, oui, j'ai travaillé fort, mais il y a eu des événements marquants qui nous ont permis d'augmenter la cote d'écoute au niveau où elle s'est rendue. Je parle quand on a triplé la cote d'écoute au niveau du bulletin de nouvelles de soir à 17h58, il y avait une partie de moi parce que je me donnais. Je me suis donné à 100%.
C'est ton nom de famille d'ailleurs, tu te donnais?
Je me donnais. C'est le cas de dire. Et, ultimement, c'est parce qu'il y a eu aussi des événements. S'il se passe rien, j'ai pas les mêmes ingrédients. Et les gens nous suivaient. Rappelez-vous des conférences de presse de M. Legault à 4h, pas 5h l'après-midi.
Puis une fois, c'est arrivé à 6h.
Je l'ai bien pris, celle-là. Je l'ai jamais pris, sa conférence de presse à 6h. J'étais furieux. Pourquoi? Tous les bulletins locaux dans la province, on diffuse à 6 heures.
Oui.
Va pas faire un bulletin spécial ou en fait une conférence de presse spéciale à cette heure-là. Tu fais pas ça aux États-Unis là, 6h30. NBC, CBS, ou ABC vont pas accepter de couvrir une conférence de presse du président à 6h30. D'abord, le président, jamais qu'il ferait une affaire de même à 6h30, quoique avec Trump, tout est possible. Mais ce que je veux dire, là, c'est que tu fais pas ça. En tout cas, il l'a fait juste une fois, mais j'ai trouvé que c'était à la fois de trop.
Toi, t'as été amer longtemps de ça, alors que moi, je trouvais qu'on avait quand même pris ça de main de maître, c'est-à-dire, parce que au début, c'était juste on laisse le réseau là.
Oui.
Moi, je me suis en meeting, je me suis dit, pourquoi qu'on rentrerait pas local? Puis, quand le ministre arrive, le premier ministre arrive, on l'envoie à la conférence de presse, comme tous les réseaux font. Alors que là, les gens devaient avoir une présence locale, devaient voir le chef d'antenne local, qui était toi à ce moment-là.
Exact. Et ça a été probablement, moi je pense, un moment de 200 à 250 000 téléspectateurs d'une shot. Parce que cette intervention-là, à 18 heures, du premier ministre, c'était énorme. Puis on est commencé effectivement à 17h58. On a fait du blabla.
Il n'y avait pas de texte dans le prompteur. C'était
non.
Pierre, vas-y, t'es bon là-dedans.
Et ça, en passant, le télésouffleur, il a ses avantages, mais il a ses inconvénients.
Tout le monde se demandait pourquoi Pierre t'imprime ton bulletin sur papier, tu l'as déjà sur le prompteur. T'as pas besoin d'imprimer.
C'est parce que ça peut tomber à n'importe quel moment.
On l'a vécu.
Puis on l'a vécu à plusieurs reprises. Les gens ne peuvent pas savoir ce que j'appelle l'arrière-scène quand le télésouffleur tombe. Le problème, cependant, du télésouffleur, c'est que tu dois continuer de parler aux gens. Faut pas que tu lises le texte puis t'es tenté.
On est formaté comme ça.
On est formaté à lire. Puis là, tu parles plus au monde. Fait que moi, ma force, dans beaucoup de cas, ça a été d'aller hors texte. Et quand ça brisait, c'est là que j'étais à mon meilleur. Et c'est pour ça, dans ce qu'on fait, dans ce que j'ai fait cette semaine avec toi, quand on a fait Christian Dubé,
ouais.
J'ai pas eu le temps d'écrire un texte. Tu m'as envoyé un message en disant « Le ministre Dubé vient de démissionner. »
Au début, j'étais pas sûr parce que j'avais pas vu ça venir, moi. Au début?
Du tout, moi non plus. Là. Puis là, je vois ça, puis je dis, « Hey, on fait de quoi? » Quoi? Je ne sais pas. Je dis, « Ouvre le micro, on part. » Puis comme des faits, on a fait un hit avec ça. J'ai eu d'excellents commentaires où les gens ont dit, « Hey, c'est le fun, parce que on sent que tu nous parles. » Et la beauté, justement, quand tu improvises, puis que tu racontes de quoi, ben, tu deviens un conteur.
T'es naturel. Ouais.
Alors que si tu as un beau texte parfait, tu vas bien lire, belle voix, bien placée. Mais finalement, est-ce que tu parles directement aux gens? Pas toujours certain.
Mm-hmm.
Tu as vécu avec moi l'affaire que je trouve la plus spéciale de mes 20-30 dernières années.
Mm-hmm.
L'entrevue avec Jean Larivière la semaine dernière, quand il m'a appelé un vendredi, on était en meeting, toi et moi.
Ouais.
Jean Larivière communique avec moi, puis il me dit, « Pierre, faut que je te parle. » Là, je dis, « Ben non, je suis en meeting. » « Non, non, il faut que je te parle. J'aimerais ça faire un podcast avec toi. » Puis ça presse, je meurs demain à 13h30.
Je me rappelle, tu étais sur l'autre ligne en même temps.
Puis là, je te dis, « Sylvain, qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, tu as fait un virage extrêmement rapide. On a été capable de bâtir l'image vidéo avec lui extrêmement vite.
Ouais.
Parce que là, il n'y avait plus de marge de manœuvre. Là. Je pouvais pas dire, bon, on va faire ça d'ici une semaine.
On n'était pas encore rodé à ce moment-là.
On n'était pas rodé. Et là, tout à coup, paf, on a lancé cet entretien. Et je t'avoue que les quelques minutes que j'ai eues pour me préparer, je savais pas dans quelle direction je m'en allais. Comment respecter quelqu'un qui va mourir? Comment ne pas exploiter cette situation-là pour avoir l'air d'un gars qui profite de la situation? Parce que je me sentais pas bien là, d'interviewer quelqu'un qui allait mourir. J'avais jamais vécu ça
avant. C'est toujours délicat, ça.
Et je t'admets que je suis content du résultat final. Mais tout ça là, a quasiment été improvisé parce que ça s'est fait tellement vite, j'ai pas eu le temps d'y penser. J'ai eu le temps de dire, OK, faut que j'y demande ça. J'ai telle affaire qui... puis la famille semblait énormément avoir apprécié. Mais toi, tu as vécu quelque chose quand même de particulier. Oui. Parce que la première fois que toi aussi, tu vivais un tel enregistrement.
Oui, oui, comme de cette façon-là, là, à moins de 24 heures, parce qu'il faut le dire, c'était moins de 24 heures. Là. On n'avait que 18 heures peut-être, 16 heures, 17 heures avant que son décès arrive, même qu'il a été devancé de quelques minutes. Alors que à ce moment-là, bon, moi je sais que je dois faire une entrevue, j'ai aucune idée dans quelle optique on va le faire non plus, puis faut que ça soit le plus professionnel possible. Fait que moi, faut pas que je me plante techniquement sur mon bord, c'est pas le temps de le refaire commencer, le monsieur. Je sais que lui, là, il est sur ses dernières énergies, là. Ça, il y en a pas beaucoup, là.
Ah, il a tout donné d'ailleurs tout dans cet entretien-là. Bon.
Alors, autant toi que tu dois livrer sur ton côté, dois livrer l'entrevue de façon professionnelle, de façon aussi le plus juste possible, que moi, côté technique, je dois m'assurer que tout roule, c'est pas le temps de le recommencer en l'appelant une demi-heure après, je m'excuse, on a oublié d'enregistrer. Ou excuse, l'enregistrement pour fonctionner. Ça peut arriver, là. On n'est pas à l'abri de ça. Alors moi, je m'étais padé deux enregistrements simultanés pour être certain que si je l'avais pas en vidéo, moi, je l'avais en audio. De cette façon-là, on aurait été padés. Mais ça a été émouvant parce que M. Larivière, je le connaissais dans les entrevues qu'on faisait avec TVA, que ce soit quand on avait du côté de Grandville-sur-la-Rouge, je me rappelle, là, il y avait eu la maladie du cerf, là, des fripulitantes, où je ne me souviens plus trop, là, où il a fallu qu'il abatte un paquet de chevreuils. On avait été le voir, lui, puis il nous l'avait dit. C'est pas nécessaire de toutes les abattre parce que c'était une maladie qui pouvait se contrôler. Mais ils ont décidé d'abattre le troupeau complet. Lui, il avait dénoncé ça. Puis il y avait un beau pommier derrière chez eux. Puis je me rappelle toujours quand on allait faire les entrevues, là, il nous donnait toujours une pomme à l'automne, au mois de septembre, octobre, quand les pommiers donnaient leurs fruits.
Moi, ce qui m'a renversé dans cette entrevue-là, c'est quand je demande au gars, c'est quoi ton message pour les gens?
Ouais.
Puis qui nous sort le numéro de téléphone concernant le braconnage. Il dit comme message aux gens, si vous voyez du braconnage,
dénoncez.
Dénoncez. Ouais. Puis il sort le numéro de téléphone. Le gars est en train de mourir.
Il militait jusqu'à la toute fin.
Jusqu'à la toute fin, pour lui, la nature, c'est plus important que n'importe quoi. Et ça, là, je pense que c'est un message aussi qu'il nous envoie, quand il parle de ses voisins, l'importance de respecter tes voisins.
Oui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut retenir de Jean Larivière dans le futur? C'est cette phrase-là qui sort.
Quel personnage!
C'est là que je pense qu'il a atteint un niveau de sagesse immense avec ces phrases-là, parce qu'il aurait pu juste se centrer sur lui-même ou sur sa période de vie à lui. Alors que non, ça faisait partie de sa vie, alors qu'il l'a bien livré.
Alors, ce que les gens ont entendu à ce moment-là, ce que vous venez d'entendre dans la dernière heure, c'est des situations que vous allez voir à plusieurs occasions avec nous deux. 25 décembre, on se donne rendez-vous.
Oui, oui, on
se... Là, tu seras de ton poste de travail là-bas. Oui. Moi, je serai du mien ici.
On va connecter nos deux stations, nos deux studios ensemble. On va donner un autre... Les gens à la maison ne verront pas de cette façon-là parce que avec la technologie maintenant, tout peut être à distance.
Exactement. Puis on voulait absolument ce soir pour le lancement de se faire une émission de départ, de marquer le début de Radio Éternité. Mais il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Alors restez à l'écoute, mesdames, messieurs. On vous invite à être avec nous pour la musique, les commentaires, puis plein d'autres affaires qui s'en viennent à Radio Éternité. Merci Sylvain.
Merci Pierre. Puis là, on va se laisser en musique parce qu'on parlait tantôt des grands qui sont malheureusement disparus puis qu'on n'entend plus parler. Mais on y va avec Claude Léveillé.
Oh!
Puis nous, on se retrouve le 25 décembre, Pierre.
Absolument.
On sait pas l'heure encore, hein?
Probablement en après-midi.
En après-midi. Bon, ben soyez là. Puis d'ici là, ben visitez espacedonnais.ca pour tous les détails. On va vous tenir au courant le plus possible. Bye Pierre.
Bye.
Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux quatre vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde. Aujourd'hui ou plus tard, et moi j'ai suivi. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver tout fin seul. T'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, bon ça fait plus sérieux. De perdre un coup de vieux et tout ça, ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux quatre vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins. Mais papa nous aimait bien, tu te rappelles, le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après, ce fut la fête, la plus belle des fêtes. La fête des âmes en ne dura qu'un printemps. Puis l'automne revint, cet automne de la vie. Adieu, bel harlequin, tu vois qu'on t'a menti. Écroulé nos châteaux, adieu, nos clairs de lune. Après tout, faut ce qu'il faut pour s'en tailler une. Une vie de bon vivant, une vie sans argument. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux quatre vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Tu te rappelles, Frédéric? Salut!